Je vais demander à Frédéric Bataille de nous rejoindre, directeur général de Valagro, et qui, je lui donne une quinzaine de minutes pour votre intervention. Merci.
Bonjour à... Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le directeur, de m'avoir invité. Alors moi, j'ai aussi une petite présentation qu'il faut que je retrouve. Juste au départ, pour rebondir sur l'intervention en introduction de Georges Stupart, lorsqu'il disait que donc changement climatique, tout le monde s'en fout, sauf la région Poitou-Charentes. Vous verrez que Valagro en est une illustration, puisque Valagro est largement soutenu depuis sa création en 1992 par la région Poitou-Charentes. Et pour la petite histoire, mon président s'appelle Georges Stupart. Voilà. Et sinon, juste, j'ajouterais aussi que changement climatique, tout le monde s'en fout, et surtout les Américains, on pourrait dire. Ça, c'était vrai il y a encore quelques temps, mais je ne sais pas si c'est vrai que là, on n'en a pas encore parlé, mais il y a eu comment dire, un rapport d'experts scientifiques américains qui est sorti ce mardi par rapport, et pour alerter, je pense, l'opinion publique américaine. Ou alors c'est peut-être une vision un peu pessimiste, mais ils vont jusqu'à illustrer la disparition d'une trentaine de sites et ce qu'ils appellent des trésors américains tels que la Statue de la Liberté sous les eaux, Cap Kennedy aussi qui disparaît et Fort Monroe en Virginie qui est le premier site des colons aux États-Unis qui deviendrait une île. Voilà, donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler davantage de ce que l'on peut faire par rapport à ce réchauffement climatique et ce qui est déjà fait. Quelques mots sur Valagro. Nous sommes un centre de R&D privé basé à Poitiers et spécialisé dans la valorisation de la biomasse, de ses coproduits et des déchets organiques. Alors, lorsqu'on parle de changement climatique, c'est vrai qu'on pense tout de suite aussi aux émissions de gaz à effet de serre. Et l'enjeu, je vous parlerai beaucoup d'énergie renouvelable. Le principal enjeu environnemental de ces énergies renouvelables, c'est d'essayer de pallier aux effets du réchauffement climatique. Juste pour rappel, l'effet de serre, c'est vrai que Daniel Perreuzot en a parlé brièvement en disant que cet effet de serre, finalement, s'il n'existait pas, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Qu'il existe un effet de serre naturel qui permet justement le développement de la vie sur Terre, mais que, en complément de cet effet de serre naturel, on a un effet de serre anthropique, donc dû aux activités humaines, avec un réchauffement climatique. Aujourd'hui, on ne sait pas de combien de degrés, jusqu'à combien de degrés ça peut aller. Daniel nous a présenté les différents scénarios. Et par contre, c'est vrai que moi, je suis peut-être plus affirmatif en disant que les gaz à effet de serre sont fortement responsables de ce changement et que le principal gaz à effet de serre, donc moi je vous parlerai aujourd'hui beaucoup aussi de CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. Vous voyez que chaque année, au niveau des émissions de CO2, ça représente de l'ordre de 32 milliards de tonnes. On a la teneur en CO2 dans l'atmosphère, là je n'y reviens pas, donc ppm, donc parties par million. Mais donc Daniel nous les a présentés aussi. Ce que l'on voit, c'est que la concentration du CO2 dans l'atmosphère augmente fortement, finalement, depuis les années 50, finalement, depuis, comme le disait, rappelé aussi Daniel, depuis la révolution industrielle. Et que, bien sûr, cette concentration de plus en plus grande du CO2 dans l'atmosphère a des conséquences. Bon, ça, c'est aussi une simulation là, par rapport à la température, mais ça, j'y reviens pas. Là où je vais plus insister, voilà, c'est aussi, même si Daniel a donné des pistes, moi, je vais vous montrer des exemples concrets de ce qui est déjà fait et de ce qui est fait en région. Donc, voir comment réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Le premier point serait de réduire les consommations énergétiques, mais ça, ce n'est pas le travail de Valagro. Et sinon, ça va être de développer des énergies renouvelables. Donc ça, je reviendrai dessus. Et puis, capter, donc séquestrer, stocker. Et moi, je rajouterais, puisque c'est là où nous, on va travailler, c'est aussi faire réagir le CO2 émis. Puisque donc moi, je suis chimiste. De formation, et c'est vrai que pour un chimiste, donc dans le CO2, il y a une partie qui nous intéresse bien, c'est le carbone, et même si le CO2 est considéré comme une molécule stable, on peut quand même réussir à faire réagir cette molécule, vous verrez, pour faire derrière certaines autres molécules plus intéressante en chimie. Et donc, plutôt que de se dire on va séquestrer ce carbone, se dire on va le capter pour l'utiliser comme un réactif de la chimie du futur. Donc, développer les énergies renouvelables. Moi, je vous parlerai beaucoup de biocarburants. Alors, pourquoi développer ces biocarburants? Donc, sur ce transparent, vous avez un tableau où vous avez, par rapport aux activités humaines, les pourcentages de CO2 qui sont dégagés par ces différentes activités. Vous verrez qu'il y a une différence entre le monde et la France, et surtout dû au fait que la France avait opté sous le général de Gaulle pour une politique énergétique avec une électricité produite par le nucléaire, mais ça, c'est aussi une autre question. Et c'est pour ça que vous avez cette différence entre les rejets de CO2, en fait, dus au niveau du monde pour produire de l'électricité, puisque là, ça va être essentiellement les centrales à charbon, les centrales à gaz naturel, centrales pétrole, ou même, c'est vrai que s'il y a des améliorations par rapport aux centrales à charbon, on sait quand même que c'est une production d'électricité de cette forme va générer beaucoup d'émissions de CO2. Vous voyez qu'au niveau de la France, c'est essentiellement le domaine des transports qui va générer du CO2. Donc, si on regarde par rapport aux différents carburants disponibles et qu'on fait finalement un bilan du CO2, c'est-à-dire du puits de pétrole ou du champ pour la biomasse jusqu'à la roue du véhicule, ce que l'on voit sur ce dessin, c'est que finalement, les carburants qui vont être les moins émetteurs de CO2, ce sont ceux qui vont être issus de la biomasse. Et pourquoi ? C'est expliqué par ce dessin. C'est donc au-dessus, vous avez le cycle pour la production de carburant classique, où bien sûr, vous allez avoir des puits de pétrole qui vont aussi générer un petit peu de CO2. Souvent, ces puits de pétrole sont loin à la fois des raffineries et des zones d'utilisation de ce pétrole. Donc, il faut transporter par bateau ce pétrole, ensuite par voie terrestre pour aller jusqu'à la raffinerie. Et là, à chaque fois, vous voyez qu'il y a des dégagements de CO2. Et ensuite, bien sûr, l'utilisation en carburant. Et finalement, dès qu'il y a une combustion, qu'il s'assoit d'un carburant classique ou d'un carburant fossile, il faut savoir qu'il y a du dégagement de CO2. C'est ce que l'on voit là. Par contre, dès que l'on va faire appel à un biocarburant, vous voyez qu'on est déjà sur des circuits plus courts. On va être plus proche de la bioraffinerie. Hein, c'est pas la même usine. Et grâce au processus de photosynthèse, eh bien, les plantes, pour croître, finalement, vont commencer par absorber du CO2. Alors après, c'est vrai qu'on va avoir un peu de dégagement aussi de CO2 par rapport à la culture de ces plantes, par rapport à la récolte. Et puis après, bon, le cycle est le même. Mais c'est surtout au départ, au moment de la production, vous voyez que ben, la plante va commencer par absorber du CO2, quand dans le cadre du pétrole, finalement, c'est un CO2, mais qui était enfoui depuis des centaines de milliers d'années, voire plus. Et donc, c'est pour ça que là, on dit qu'on a un bilan quasiment neutre en termes de CO2 lorsque l'on va utiliser des biocarburants. Par contre, c'est à condition d'utiliser des biocarburants purs. Dès qu'ils vont être en mélange avec un carburant fossile, à hauteur de quelques pourcents, c'est sûr que là, le gain est beaucoup plus faible. Alors, parmi les différents biocarburants, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, ce transparent vous présente les différents biocarburants. Au-dessus, ce sont ceux qui existent aujourd'hui. C'est sur ceux aussi qui sont source de problématiques dans la mesure où on va rentrer en concurrence d'usage direct avec l'alimentaire, l'agroalimentaire, puisque vous voyez que les matières premières utilisées, ce sont toutes des matières premières que l'on connaît très bien qui servent à l'alimentation aussi bien humaine qu'animal, avec deux voies. Une voie qui va vous permettre, à partir de ce qu'on appelle les oléagineux, les huiles, donc huile de colza, de tournesol pour la France métropolitaine, mais ça fonctionne aussi avec l'huile de palme, notamment. Donc, on va faire ce qu'on appelle un ester. Donc, c'est une réaction chimique qui s'appelle la transestérification. On fait un ester, et cet ester, lui, on peut le mélanger au gazote, on peut même aller jusqu'à 100% d'ester avec des véhicules légèrement modifiés. Pour la filière essence, ça va être une autre source de matière première où là, on va avoir besoin de sucre. Donc, ça va être soit des plantes sucrières telles que la betterave ou la canne à sucre, ou des plantes céréalières qui contiennent des polymères de sucre, c'est-à-dire de l'amidon. Donc là, on va être sur le blé, maïs, la pomme de terre, l'orge, manioc. Où là, ce qui va intéresser, c'est que l'on va d'abord extraire le sucre, et ce sucre, par fermentation alcoolique, on va produire de l'éthanol, et cet éthanol, on peut le mélanger à l'essence. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez à la pompe, il faut savoir que de façon banalisée, on retrouve de l'ordre de 5 à 6% de ces biocarburants dans votre réservoir. Et pour les flottes captives, on monte autour de 30%. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la première génération des biocarburants. La seconde génération, qui est en cours de développement, qui n'est pas encore commercialisée, où là, vous voyez qu'on va utiliser d'autres types de biomasse. C'est ce qu'on appelle une biomasse lignocellulosique, qui va contenir de la cellulose, des hémicelluloses et de la lignine. Schématiquement, ça va être de la paille, ça va être du bois. On peut aussi avoir des cultures dédiées. Et c'est la même biomasse qui va permettre de faire un produit qui va être mélangeable au gazole ou un biocarburant, toujours de l'éthanol, mélangeable à l'essence. Et là, ce sont d'autres procédés. Et ça, c'est en cours. Et moi, je vous montrerai juste un exemple d'un procédé mis au point par Valagro pour produire de l'éthanol de seconde génération à partir, vous voyez, de ces biomasses lignocellulosiques. Donc ça peut être à partir de bois, ça peut être à partir de paille. Et même, on a fait des essais à partir, puisque là, nous, ce qui nous intéresse, de la cellulose. Et où est-ce que l'on retrouve de la cellulose? Ben, dans le coton. Et donc, on s'est, entre guillemets, amusé à transformer des vieux jeans, des t-shirts en coton, finalement, en un carburant, un éthanol de seconde génération. Bon, je vous passe les détails du procédé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que suite à ces travaux, il y a une unité pilote qui s'est montée à Mel, hein, donc avec la société Ecoéthanol qui gère ce pilote et qui est capable de traiter de l'ordre de 500 kilos jour de matière pour produire cet éthanol. Et donc là, actuellement, cette unité pilote a fait la démonstration du procédé et on en est à rechercher un partenaire industriel pour pouvoir développer commercialement ce procédé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal de trouver en Europe ce partenaire, parce qu'il y a d'autres procédés qui concurrents. On ne retrouve pas forcément beaucoup de biomasse. Et les discussions les plus avancées qu'on a, c'est avec une société japonaise pour une exploitation de ce procédé au Vietnam. Et tout à l'heure, donc, je vous disais CO2, on peut voir le CO2 comme une molécule chimique et comme un réactif. Donc, Valagro travaille depuis maintenant 3 ans sur un projet qui est cofinancé par la région Poitou-Charentes et par l'Europe via des fonds FEDER, où on s'est dit séquestrer ce CO2, c'est peut-être bien, mais c'est laisser aux générations à venir ce problème et se dire on peut essayer de trouver déjà des solutions. Et puis surtout, on se dit mais qu'est-ce qui peut se passer si un tremblement de terre, si, parce qu'il y a déjà eu des cas de séquestration, on va dire, naturelle de CO2. Alors je ne sais plus dans quel pays d'Afrique c'était, ou autour d'un lac, il y a eu comme ça, au Cameroun, il me semble, oui. Du CO2 qui s'est retrouvé relargué rapidement, et puis le village qui était à côté, malheureusement les gens sont décédés. Donc on va dire c'est une solution, mais qui est risquée. Donc voyez, nous on essaye de se dire ce CO2, on va l'utiliser comme source de carbone, hein, puisque pour le chimiste, ça c'est important, le carbone. Et je vous ai mis un exemple d'une réaction qu'on étudie, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais grâce à cette réaction, vous voyez qu'on pourrait aller sur des dérivés phénoliques. Et quand on sait que le phénol aujourd'hui est utilisé pour faire certaines colles, on peut travailler aussi pour faire ce qu'on appelle du polycarbonate, hein, qui est un polymère. On pourrait le fabriquer à partir de ce CO2, notamment pour faire soit des coques d'ordinateur, soit même également les biberons. Et puis, le dernier exemple, où là, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un intérêt, parce que là, bien sûr, il n'y a pas que Valagro qui travaille sur ce sujet de par le monde, mais par rapport à la production d'électricité, quand je vous disais que c'est vrai que les usines à charbon, à pétrole émettent beaucoup de CO2, l'intérêt de ce CO2, c'est qu'on sait où il est émis. Donc, on va pouvoir le capter à la source et pouvoir l'utiliser. Notamment, il y a des expérimentations qui se montrent de plus en plus pour, à côté de ces centrales à charbon, mettre des champs de culture d'algues, puisque les algues vont être capables de piéger le CO2. Donc ça, c'est le processus finalement de photosynthèse. Hein. Elles vont piéger le CO2 en présence de lumière. Bien sûr, il faut de l'eau, il faut des nutriments. Ça va permettre de produire une biomasse algale. Et cette biomasse algale, on va savoir la transformer soit en ester gras, c'est-à-dire en biodiesel, soit en bioéthanol, selon l'espèce qui est cultivée. Et Valagro travaille sur un projet pilote avec le groupe Séché Environnement au Vigan, donc dans le sud du département de la Vienne, où Séché Environnement... stocke des déchets sur une zone bien sûr dédiée, ICPE, et donc ils ouvrent des alvéoles qui rendent étanches. Tous les jours, vous avez des camions poubelles qui viennent remplir ces alvéoles. Quand les alvéoles sont pleines, elles sont fermées. Et en dessous, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en absence d'air, vous allez avoir un processus qui est proche de la méthanisation, où les déchets fermentescibles vont former du biogaz, c'est-à-dire du méthane. Ce méthane, lui, va être capté pour justement... D'une part, ne pas le renvoyer à l'atmosphère, puisque comme le rappelait Daniel, le méthane a un potentiel en termes de gaz à effet de serre qui est de l'ordre de 25-26 fois plus important que celui du CO2. Et donc, on récupère ce méthane pour le brûler sur deux moteurs de cogénération donc, et produire de l'électricité pour l'équivalent d'une ville de 11 000 habitants. Mais comme je vous disais tout à l'heure, dès qu'il y a une combustion de carbone, eh bien, on forme toujours du CO2. Et puis, il y a aussi formation de chaleur. Et ces deux coproduits, jusqu'à présent, n'étaient pas valorisés. Et donc, l'idée, c'est de faire pousser des microalgues où on fait buller le CO2 dans l'eau pour accroître la vitesse de croissance de ces algues et la chaleur qui va être utilisée pour chauffer les bassins, pour aussi favoriser la croissance, la culture des micro-algues. Et ensuite, eh bien, on va faire cette biomasse que actuellement, nous, on convertit en éthanol. Voilà. Et puis, donc, si j'avais encore une à deux minutes, pour rebondir aussi sur ce que disait Philippe Dutruc, moi, je vous parlerai plus aussi de la filière chimie en Poitou-Charentes et de deux manifestations, de deux opérations qui sont menées maintenant depuis 2 ans. La première, c'est à l'initiative de l'Union des industries chimiques Poitou-Charentes-Limousin, du pôle des éco-industries, de l'Université de Poitiers via l'Institut de chimie et puis également du CRI de chimie et de Valagro. Il y a une réflexion qui est menée depuis 2 ans sur la chimie durable en Poitou-Charentes, où ont été interrogés 220. Alors les 220 entreprises n'ont pas répondu au questionnaire, mais on a interrogé une trentaine de ces 220 entreprises pour avoir un peu leur vision de l'innovation, les visions de la chimie durable. Et on a été agréablement surpris de voir que même les plus petites entreprises étaient sensibilisées à cette chimie durable, n'en faisaient pas, peut-être pas forcément, mais savaient ce que c'était et envisageaient d'aller vers des procédés plus donc chimie durable. Et suite à ce questionnaire, et surtout en parallèle, il y a déjà eu deux premières rencontres qui ont eu lieu avec des industriels, avec les institutionnels. La première, c'était sur les matières premières renouvelables, donc où là c'est en substitution du carbone fossile, donc un peu ce que je vous ai présenté sur les biocarburants, mais on a été plus loin aussi sur des biosolvants, sur des lubrifiants qui pouvaient remplacer le pétrole. Et la deuxième journée, qui était sur les procédés éco-efficients, où là, c'est justement réduire les consommations énergétiques, les consommations d'eau. Et la troisième rencontre aura lieu le 13 juin à la région Poitou-Charentes, hein, donc ici à Poitiers. Ça sera le rendu de ces enquêtes, et puis un plan d'action qui a été défini en 4 axes qui sera dévoilé à cette occasion. Et donc je vous invite, si vous êtes intéressé pour assister, participer à cette rencontre, de reprendre contact avec moi et je vous enverrai une invitation. Et donc ça a débouché aussi tout ce travail également en réflexion avec la région Poitou-Charentes sur la création d'un institut de la chimie verte qui devrait être créé en juin. Comme donc Ségolène Royal était à l'origine de cet institut, c'est en fonction de son calendrier, puisque moi, j'ai appris que malheureusement, on ne pourrait pas être là le 13 juin. Il y a un Conseil des ministres européen. Mais sinon, le 13 juin, ça aurait dû être la signature de création de cet institut qui va fédérer finalement la recherche amont, donc la recherche universitaire, jusqu'aux industriels, les PME et puis les grands groupes de la région et même ça va s'étendre à l'arc atlantique, en passant par le transfert technologique et donc des structures telles que Valagro, mais en Poitou-Charentes, on a aussi le CRIT matériaux, le CRIT horticole qui travaille autour de ces sujets. Donc voilà, vous voyez qu'il y a des choses qui sont. On peut être fier de ce qui est fait en région, même si ça reste une goutte d'eau. Voilà, ça, on participe aussi à essayer de montrer que tout le monde ne se fout pas forcément du réchauffement climatique.
Merci beaucoup pour ce point-là sur les recherches conduites en Poitou-Charentes. Si tous ces projets aboutissent, on n'aura peut-être pas assez de CO2 justement pour couvrir tous les besoins. Hein, on peut espérer. Alors Didier n'a pas osé vous le dire tout à l'heure, mais je le dis, je l'annonce. Hein, l'espace Mendès France sera un point de collecte des vieux jeans, puisqu'on va collecter maintenant les vieux jeans pour faire de l'éthanol. Hein, ça permettra de boucler la boucle. Hein. D'accord. On fait déjà des matériaux d'isolation avec les vieux jeans. On fera demain de l'éthanol. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Sans transition, on va passer à la collectivité, la commune de Poitiers, en particulier avec Patrick Coronas, qui est conseiller municipal, qui est en charge de la qualité environnementale et de la transition énergétique. Et on va voir en quoi une commune comme Poitiers se préoccupe aussi des questions liées au climat.
Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais faire d'abord une petite présentation préliminaire suite à l'ensemble des discussions qui ont déjà eu lieu. Quand on est élu, on se doit de savoir ce qu'on fait. Et effectivement, sur un sujet comme le changement climatique, c'est pas aussi évident que ça. Pour avoir essayé, à titre professionnel, puisque je suis enseignant, et à titre d'élu, de me coltiner le rapport du GIEC en anglais, parce que sinon on a les résumés pour les décideurs qui ne sont pas les contenus scientifiques, donc qui n'ont pas le même intérêt. Et effectivement, on est à la limite de ce qu'on peut faire, et on est aussi à ce qu'on doit admettre, c'est-à-dire que effectivement la science c'est savoir, mais que dans une certaine mesure il faut aussi croire, c'est-à-dire admettre, croire entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas de croyance, mais admettre que les chercheurs et la recherche telle qu'elle est aujourd'hui à ce niveau où elle est nous dit l'état de l'art, et donc admettre que ce que on trouve, les conclusions qu'on trouve dans le rapport du GIEC sont l'état de l'art. Toute autre modalité de pensée nous fait dériver, là pour le coup, vers la croyance. Et après, on peut croire ce qu'on a envie, effectivement, trouver des exemples qui vont nous dire que ça ne se réchauffe pas ou peu. Mais c'est vrai dans d'autres domaines scientifiques, et je pense que ce lieu qui est l'espace Mendès France pourrait être un lieu intéressant pour discuter de cette notion de science citoyenne qui m'inquiète un peu, dire en quoi les citoyens seraient capables de faire de la science sans formation ni sans pratique scientifique. Je vois bien en tant qu'ancien scientifique, une fois qu'on arrête la pratique scientifique, on est bien loin de la réalité. Donc voilà, l'élu, il se doit, en dehors de ses pensées personnelles, de s'appuyer sur l'état de l'art au niveau scientifique. On pourrait rebondir sur effectivement les aspects OGM, quel est l'état de l'art au niveau scientifique et quelles sont les décisions politiques nationales. Hein. On aurait aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, si j'en parle, c'est parce que quand on va sur les sites sceptiques, c'est important aussi de voir un petit peu tout ce qui se décide. Le débat d'aujourd'hui est déjà en ligne sur les sites sceptiques francophones, français. Et cette notion de climato-fatalisme, sur lequel Didier, tu m'avais incité à intervenir, était mis en exergue, voilà, une nouveauté des réchauffistes, le climato-fatalisme. Donc, en fait, c'est très réactif, effectivement, hein, mais être réactif sur Internet ne fait pas de la science, et les traînées de nuages, je suppose que c'était cette allusion-là, ne fait pas une grande objectif mondial de stérilisation des populations, hein, puisque ces traînées d'avions, si vous allez sur Internet, vous verrez que c'est en fait un complot mondial pour détruire la population. Mais il y a plein de systèmes très pratiques en vente pour pas cher, quelques centaines de dollars, qui font que lorsque vous les installez, ça disparaît. Je vous rassure, vous ne les installez pas, ça disparaît quand même. Mais entre-temps, vous aurez quelques centaines de dollars de moins, ce qui vous résoudra. Alors effectivement, ça c'est le préambule. La décision politique, elle doit se prendre en fonction de l'état de l'art scientifique. Et il faut admettre en tant que politique qu'il faut s'appuyer sur cet état de l'art et ne pas y intégrer ses croyances. Ensuite, effectivement, le fatalisme, ce serait de dire en quoi les actions de ma collectivité, qui vont sauver, puisqu'on a les calculs, quelques centaines de kilos de CO2 par ici et quelques milliers de kilos de CO2 par là, quand ça marche bien, vont être utiles dans cette problématique de réchauffement climatique, sachant que effectivement, une centrale thermique s'installe tous les 15 jours en Chine au charbon et que nos amis allemands d'Autres Rhin ont remplacé leurs centrales nucléaires par des centrales à charbon et à lignite et donc sont devenus les premiers producteurs de CO2. Là, effectivement, le fatalisme, il peut être venir très vite, et mais on doit en fait revenir à peut-être à l'aspect énergie. J'ai dans ma délégation la transition énergétique. Cet aspect énergie est important parce que le fatalisme consisterait aussi à se dire on n'a rien à faire alors qu'il y a des demandes fortes. Et en tant qu'élu, dans ces demandes fortes, eh bien, il y a la problématique de la précarité énergétique des habitants. Et cette problématique de précarité énergétique des habitants peut être une piste d'entrée. Elle l'est déjà, hein. Je ne vais pas révolutionner la collectivité par mon arrivée, mais je vais essayer d'y mettre aussi ma touche. Cette précarité énergétique, elle est liée à cette problématique générale d'énergie et elle est liée aussi au problème de réchauffement climatique. Donc, eh bien, si on ne peut pas effectivement changer le climat en agissant sur Poitiers, on peut changer la vie des gens et ça sera déjà quelque chose de très intéressant. Alors, cette énergie dans la collectivité, il y a beaucoup d'actions qui sont déjà en place. Il y a un plan territorial énergie-climat, un agenda 21, le point info environnement, le point info énergie, qui est un outil pour les habitants et pour les collectivités aussi, puisque toutes les collectivités de l'agglomération n'ont pas les moyens d'avoir du personnel formé sur cette problématique-là. Donc on a aussi collectivisé cette problématique pour pouvoir donner des outils à l'ensemble des élus de toutes les communes pour qu'ils puissent agir également. Et effectivement, on va agir aussi sur, depuis les déplacements, hein, ça a été signalé, comment on peut organiser des déplacements pour que on sorte du tout voiture pour arriver à décaler en fait les modes de déplacement vers les transports en commun, vers les transports vélos, musculaires, hein, ça a été cité, et piétonniers. Donc ça demande des aménagements de voirie pour les vélos, parce qu'on ne peut pas non plus faire du vélo aussi facilement partout. Hein. On n'est pas à Strasbourg ici, c'est un peu moins plat pour certains endroits de Poitiers, donc il faut aussi en prendre compte, en tenir compte. Et ces investissements-là, ces changements aussi d'habitude, hein, on peut aussi se dire que quand on y travaille, là, pour avoir discuté avec un responsable d'entreprise, monsieur Dutruc est parti, mais effectivement, la décision d'installer une cantine collective pour les salariés de la ville, de la maintenir, d'en faire de qualité, ben c'est des déplacements qu'on évite, puisque les gens peuvent manger sur place et donc c'est un système de déplacement qu'on évite. Alors là aussi, ce sont quelques kilos de CO2, mais c'est aussi de l'argent de gagner pour les salariés puisque c'est un déplacement en moins. Donc c'est toujours cette contradiction. Je crois que effectivement, si on arrive dans une collectivité en disant nous allons la collectivité répondre à la question du changement climatique, en 5 minutes, on est dans le climato-fatalisme, hein, et on arrête, on n'y arrivera pas. Si on le prend sur comment on va améliorer la vie des salariés, dans ce cas-là, des gens dans les transports, et puis comment aussi on agit pour être exemplaire, et je ne vais pas être trop long, donc je vais juste en rester là sur cette action, et puis aussi pour montrer les limites de cette action exemplaire, mais qui peut être aussi contradictoire avec l'objectif direct, mais qui pourrait être intéressant. La collectivité a, si je prends la ville de Poitiers, un patrimoine immobilier important. C'était mon ancienne casquette d'élu. C'est 500 000 m² à gérer. 500 000 m², c'est des assurances, des chauffages, de l'entretien, etc., etc. Donc effectivement, si on veut agir sur notre impact CO2, notre impact carbone, avant d'envisager des travaux, la première réflexion qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'on a besoin d'autant ? Ensuite, est-ce qu'on l'utilise au mieux ? Un local qui est utilisé quelques heures par semaine n'est pas forcément une utilisation pertinente, ni pour l'argent public, ni pour l'effet de serre, le CO2, puisqu'on va le chauffer quand même en permanence. On va avoir. Donc, on a aussi toute une réflexion où on n'a pas forcément des investissements. On a une réflexion avec les occupants, avec nos activités, qui peut permettre et qui permet déjà, en fait, hein, puisque si je vous en parle, c'est que ça a déjà été fait, d'améliorer ça, d'améliorer notre impact carbone. Ensuite, il y a les travaux qui peuvent s'accompagner. Une fois qu'on a discuté sur l'occupation, on sait qu'on divise, c'est ce qui est engagé aussi, on divise le chauffage selon les locaux et on peut contrôler. Ces locaux seront chauffés en journée, ceux-là en soirée. Donc l'occupation de journée, elle se fera dans ces pièces. L'occupation de soirée par d'autres activités se fera dans ces pièces. Et effectivement, on a des économies importantes aussi à ce niveau-là. Et puis, il y a les travaux plus classiques d'économie d'énergie, d'isolation, qui sont mis en place. Pour vous donner une petite idée, parce que j'ai un petit peu travaillé les chiffres, mais comme j'ai été un petit peu pris de court pour la... je vais vous les retrouver tout de suite. Sur sur le dernier mandat, par exemple, sur les 15% de patrimoine qui ont été impactés par les travaux sur la consommation, on arrive à moins 31% de consommation. Donc c'est quelque chose de très important. Alors évidemment, c'était aussi le plus simple, puisque ont été choisis les bâtiments qui étaient les plus consommateurs, puisque là aussi, il faut potentialiser l'argent public qu'on investit. Si on doit investir pour économiser 1% de chauffage, ce n'est pas forcément intéressant. Donc, c'était l'équivalent de 4 millions d'euros d'investissement pour une consommation donc qui a diminué de 31%. Ce sont des éléments importants. Hein. On a baissé notre consommation brute de près de 10% en augmentant le périmètre d'activité de la ville, puisqu'on a des bâtiments nouveaux. Malgré 6 ans de travail pour dire qu'il faut qu'on diminue notre surface, la nature fait qu'on augmente encore nos surfaces. On a donc baissé 10% de notre consommation brute en 6 ans, ce qui est aussi très important. Là où il ne faut pas être éco-fataliste, c'est qu'effectivement, malgré tout, on a augmenté, on est passé de 6 à 7,3 millions d'euros en dépenses énergétiques. C'est-à-dire qu'avec 10% de baisse, on a augmenté de 15% notre facture. Donc là, il ne faut pas être fataliste, il faut être acteur, il faut être actif parce que, on le sait, la tendance lourde du prix de l'énergie sera une augmentation. La future ouverture du marché électrique qui nous attend aura pour conséquence dans un pays comme la France une augmentation des tarifs. La concurrence permettra cette augmentation des tarifs. On pourra après se poser la question de l'intérêt d'ouvrir à la concurrence un système pour le payer plus cher, mais ça c'est aussi une autre problématique que je ne traiterai pas, que je ne peux pas traiter localement, mais pour laquelle on peut réfléchir. Mais voilà, le climato-fatalisme, en fait, il faut le retourner et se dire comment on agit. Et puis, il y a un autre point aussi qui est, et ça sera le dernier, sinon je vais être trop long, c'est le problème des profs, ils sont toujours à parler. Oui, oui, je sais bien. C'est comment la collectivité, en plus d'agir sur la diminution de ses consommations énergétiques, ce qui peut d'ailleurs avoir un effet bizarre sur le CO2, puisque quand on passe d'un chauffage électrique à un chauffage gaz, on augmente son impact CO2, mais on diminue sa consommation énergétique. En France, on l'augmente obligatoirement. Quand on passe à un chauffage bois, on l'a imposé, il faut que le bois soit prélevé à une distance plus que raisonnable. Sinon, si c'est pour le transporter sur des centaines de kilomètres, on a une jolie centrale bois qui n'a aucun intérêt sur l'aspect CO2. Donc il y a tous ces aspects-là. C'est le dernier aspect, donc c'est comment on se prépare aussi au changement climatique. Il faut qu'on s'adapte à peut-être des excès climatiques. On a eu un petit orage hier, encore une fois. Climat, météo, c'est deux choses différentes, mais ce que nous annonce le GIEC, ce sont l'augmentation de ces événements plus importants. Donc il faut s'y préparer. Il faut se préparer à une température plus élevée en été, donc peut-être à aménager la ville autrement pour avoir des puits de frais avec la végétation. Donc c'est une réflexion vraiment globale qu'on doit avoir. À la fois, je suis acteur sans se faire l'illusion de changer le monde, mais de pouvoir au moins changer la vie des gens. Et je prépare aussi parce que de toute façon ça va arriver, et puis se préparer à un changement climatique en améliorant l'environnement général, même si ce changement climatique n'aura pas lieu, ça aura été un environnement général plus agréable pour les habitants.
Merci. Une toute petite question avant de conclure votre partie. Comment ces différentes propositions sont perçues par les agents de la collectivité ?
Alors, comment elles sont perçues ? Si on arrive et qu'on dit à un agent de la collectivité il faut absolument baisser ton émission de gaz carbonique, c'est perçu comme toute annonce qu'on fait à quelqu'un sans solution. Merci, vous êtes très gentil. Par contre, dès qu'on va travailler sur les consommations énergétiques du bâtiment, c'est ça. Si on arrive à économiser ici, c'est du budget du fonctionnement qu'on peut faire glisser sur du fonctionnement, je ne vais pas dire utile, mais différent. C'est une qualité de travail améliorée une qualité de rendu au service aux habitants améliorée. Oui, en fait, il faut rentrer, là, pour les salariés de la collectivité, par le biais service public, service au public. Et dès qu'on rentre dans ce... En fait, il faut s'adresser aux gens par le biais qui les intéresse d'abord et éviter d'entrer par le biais climat, CO2. Ça ne parle pas encore. Ça parle dès qu'on rentre dans le biais, par le point d'entrée qui intéresse l'agent de la ville. Ce qui intéresse l'agent de la ville en restauration scolaire, c'est que la qualité des repas servis aux enfants et aux adultes, puisqu'on fait de la restauration scolaire de restauration aux adultes aussi, soit bonne, que les aliments soient bons, que les gens soient contents. Après, on peut travailler avec eux pour dire on peut diminuer les déchets, choisir des produits plus locaux, ce qui va diminuer l'impact, rendre les consommateurs plus ouverts et les rendre plus heureux du service. Et là, on a le biais qu'il faut.
Merci. Eh bien, nous allons enchaîner avec Delphine Cuny. Alors, on va avoir deux témoignages. Ce n'est pas des interventions formelles, on va dire. C'est le témoignage de deux enseignantes de SVT. Là, on a un intergroupé de la SVT là, ce matin. Alors d'abord, Delphine Cuny, qui est enseignante au lycée Louis-Audouin-Dubreuil à Saint-Jean-d'Angély et qui a conduit l'année dernière un projet avec une classe de première sur la question du climat. Et donc, elle va nous en livrer les éléments essentiels. Il faut déposer une réclamation auprès du secrétariat de rédaction en trois exemplaires. Jean-François, c'est bientôt votre tour, donc préparez-vous.
Oui, c'est une remarque intéressante. L'année dernière, je travaillais dans le cadre de ce projet qui s'appelle « Les élèves parlent aux élèves » sur le réchauffement climatique. Et cette année, je suis plus sur le sexisme. Donc, la remarque est pertinente. Alors, en lycée, est-ce que tout le monde s'en fout du changement climatique ? C'est possible parce que dans les nouveaux programmes de lycée qui sont mis en place depuis 4 ans, il y a 4 ans en seconde, il y a 3 ans en première et l'année dernière en terminale, le changement climatique et même l'étude du climat apparaît très peu, sauf pour les élèves qui choisissent la spécialité SVT en terminale S. Autrement, les autres n'entendent, pour ainsi dire, pas parler du climat. Donc, travailler sur le climat en lycée, en tout cas en lycée général, c'est travailler en dehors des programmes, sur des heures particulières, des heures en plus, ou sur l'accompagnement personnalisé. Mais c'est un thème qui est particulièrement intéressant, comme d'autres thèmes, puisque nous, on a pour mission d'éduquer non seulement les élèves au savoir, mais aussi de les éduquer à la complexité. Il a été évoqué ce matin l'idée d'éduquer les élèves à faire des choix plus tard, à être nos futurs élus. Et dans ce cadre, ben, c'est très important qu'ils sachent prendre des décisions face à des problèmes complexes. Le problème du climat est un problème complexe en soi, et puis il se complexifie parce que chaque décision qu'on va prendre pour enrayer, disons, l'éventuel changement climatique va avoir des implications sur d'autres plans. Le plan de la biodiversité, le plan de l'énergie, le plan de la ressource en eau, de la ressource en surface agricole, qualité de la surface du sol et quantité de cette surface de sol. Donc tout un tas d'autres implications qui vont être reliées au changement climatique. Alors là, dans ce projet qui s'appelle « Les élèves parlent aux élèves », dont c'était la deuxième édition, l'idée, c'était d'abord de placer les élèves en situation de transmettre un enseignement, ce qui est toujours très riche pour différentes raisons, de leur donner des éléments de compréhension de ce sujet d'actualité qui est le changement climatique ou le réchauffement climatique, selon le regard qu'on va porter dessus, de créer des liens entre les établissements de la ville et puis de travailler en interdisciplinarité. J'ai utilisé dans ce cadre un kit pédagogique proposé par La Main à la Pâte. Le kit s'appelle « Le climat, ma planète et moi ». Ça fait plusieurs années qu'il est utilisable par les enseignants, qu'il est fait pour les élèves des écoles primaires et, disons, 6e, 5e éventuellement. Donc là, l'idée, c'était de faire enseigner ce thème à partir du kit de La Main à la Pâte à des élèves de première S. On a travaillé sur deux demi-journées pour la rencontre entre les élèves de première S et les élèves de l'école primaire, avec quatre ateliers qui étaient répartis sur ces deux demi-journées. Et pour chaque atelier, un élève de première S encadrait un groupe de cinq élèves de cycle 3, donc de CE2 à CM2. Le premier atelier de ce projet avait pour but de montrer, de mettre en évidence le changement climatique. Alors, vous avez une des fiches du kit pédagogique qui vous est présentée à gauche. Ce sont les températures moyennes en France sur 100 ans. Donc, on travaille sur des températures moyennes dans l'ensemble du projet. Rien que la notion de température moyenne avec des élèves de l'école primaire, c'est pas simple. Comme nous tous, ils sont bien plus sensibles à la météo qu'au climat. Donc, donner la notion de température moyenne, c'est aborder déjà la notion de climat. Donc voilà un des exemples. On voit très nettement, quand on recherche les températures les plus hautes sur les 100 dernières années, qu'elles sont, il me semble de mémoire, dans les 20 dernières années. C'est 10 températures les plus hautes. Tracer une courbe aussi, c'est assez formateur. Donc là, c'est les températures moyennées sur 10 ans, en France toujours. Et on voit, bien sûr, en traçant la courbe, l'augmentation sur les dernières années. On peut aussi étudier les événements climatiques extrêmes qui ont énormément augmenté sur les dernières années, et pas seulement en France. Alors, toutes ces approches ont des intérêts pédagogiques, et notamment, par exemple, ici, vous voyez une jeune fille de première S en train d'essayer d'expliquer à un élève de CE2 ce que c'est que les nombres décimaux, les chiffres à virgule, et c'est pas simple du tout. Et dès qu'on parle de température et de réchauffement, on va être obligé d'aborder ces questions-là parce qu'on ne passe pas de 12 à 14 degrés. Hein, on passe de 14,1 à 14,2. Donc c'est déjà très fin. Et si c'est difficile pour des élèves de l'école primaire, ça peut aussi l'être, ces subtilités, pour la population en général. Donc dans ce premier atelier, il y avait aussi la fonte des glaciers qui était abordée à partir de photos. Et puis l'épaisseur et l'extension de la banquise. Donc tout ça, c'est le premier atelier, montrer qu'il existe un réchauffement climatique, donner des preuves. Deuxième atelier, les conséquences que ça peut avoir du point de vue des populations, donc du point de vue sanitaire, du point de vue social, au niveau des populations, liées notamment à la montée des eaux, mais on a assez peu abordé ce point, même s'il est prévu dans le kit pédagogique de La Main à la Pâte. Donc la montée des eaux, les événements climatiques extrêmes, les sécheresses, par exemple. Donc, vraiment abordé du point de vue des populations. Troisième atelier, le lien entre l'effet de serre et le climat. Donc, faire aborder aux élèves la notion d'effet de serre naturel avec un petit texte. La demande, la consigne, c'était à partir d'un petit texte qui explique l'effet de serre naturel, de le schématiser, cet effet de serre. Donc vous voyez le schéma qui a été fait par une jeune fille de CM. Elle a retracé l'atmosphère, la planète, le soleil et des flèches qui représentent l'énergie, l'énergie reçue, l'énergie renvoyée. Montrer aussi à partir d'une expérience très simple et certainement très critiquable ce que c'est que cet effet de serre. On a simplement placé un bécher rempli d'eau sous une lampe, enfin deux béchers remplis d'eau sous une lampe. Sur l'un des béchers est placé un saladier transparent et on mesure la température toutes les 10 minutes à l'intérieur du bécher. Évidemment, on voit augmenter très rapidement la température et beaucoup plus dans le bécher qui est recouvert d'un saladier. Donc on dit aux élèves que c'est l'effet de serre. Évidemment, ce n'est pas le seul effet qui intervient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec des élèves de première S, on peut aborder éventuellement les autres effets, notamment le confinement, qui sont mis en jeu dans cette expérience. On n'avait pas les mêmes objectifs avec les petits et avec les grands dans ce type de projet. Un dernier atelier qui est mettre en lien le CO2 et l'effet de serre. Donc là, on fait tracer aux élèves la température moyenne et la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Et on arrive simplement à deux courbes corrélées, comme ça a été évoqué ce matin. Ce serait abusif de dire que la corrélation des deux courbes fait un lien de cause à effet entre les deux. Malgré tout, avec les élèves de l'école primaire, c'est à ça qu'on arrive. Même si en amont, avec les plus grands, on discute de l'abus qu'il y a à mettre simplement en lien de valeurs corrélées pour dire qu'il y a une relation de cause à effet entre les deux. Et puis, bien sûr, on prend un temps de conclusion qui a été différent de cette conclusion selon les groupes. Parfois, ça a été des dessins. Parfois, ça a été des débats de type débat philosophique. Toujours très animé et avec beaucoup d'adhésion à la fois des plus jeunes et des plus grands. Alors, c'était intéressant aussi pour moi de faire une évaluation avec mes élèves de ce projet. Ce qu'il ressort, je ne vais pas vous lire tous les éléments d'évaluation qu'on a mis en évidence, mais ce qui ressort beaucoup, c'est que, d'abord sur l'aspect pédagogique, ça leur a donné confiance en eux, ce qui était un des buts du projet. Sur l'aspect changement climatique, ils n'ont pas trouvé ça particulièrement intéressant. Ce qu'ils disent, et c'est souvent vrai dès qu'on parle de développement durable, c'est qu'ils en ont par-dessus la tête. Ils en entendent beaucoup parler. Que le pétrole, on arrive au bout, ils le savent. Qu'il va faire plus chaud, ils le savent. Que la biodiversité diminue, ils le savent. Donc l'enjeu, ce n'est pas de leur dire ça, c'est encore moins de leur donner des consignes de gestes éco-citoyens, bien entendu, mais c'est de leur donner des outils pour être capable de prendre de la distance, d'être critique par rapport à ce qui leur est dit, et d'être capable de prendre des décisions plus tard, voire très rapidement, puisque certains s'impliquent dans la vie citoyenne très très vite. Donc voilà le bilan de ce projet, et je serai heureuse de répondre à vos questions si vous en avez, si j'ai un petit peu de temps.
Merci beaucoup. Ce que je propose, c'est qu'on prenne la deuxième intervention et puis éventuellement garder quelques minutes pour les questions, parce qu'on a un temps qui est limité. Alors, je vais demander à Henriette Duclou, qui est enseignante aussi de SVT, donc, mais au collège Jean Monnet à Lusignan aussi, de nous présenter son projet Agir pour la planète. Alors, il ne faudrait pas pour autant comprendre que le saladier augmente l'effet de serre. Hein. C'est une expérience effectivement très intéressante. Ce qui est très intéressant dans votre projet, c'est la multiplicité aussi des objectifs. Hein. On a à la fois les objectifs de méthode, de comportement, aussi un peu d'acquisition de connaissances. Et c'est le croisement de tout ça qui fait l'intérêt effectivement de ce projet. Alors, agir au collège pour la planète.
Bonjour, on m'a demandé donc de présenter ce projet Agir au collège pour la planète qui a eu lieu donc au collège Jean Monnet de Lusignan dans l'année 2012-2013 et subventionné par la région Poitou-Charentes et l'ADEME. Donc notre objectif c'était de sensibiliser l'ensemble de la communauté du collège au changement climatique et éventuellement de donner des pistes d'action simples, applicables au niveau du collège. Alors, je vais faire quelques choix parce que j'ai 10 minutes, je crois. Donc, au niveau des élèves de 6e, ça a été un travail tout simplement d'exposé sur des animaux, mais on est parti d'une série de petits films présentés par TV5 où chaque animal parle en fait du changement climatique. Ces travaux ont été exposés au CDI pour la journée des portes ouvertes, et au niveau de chaque exposé, donc, il y avait un petit paragraphe sur ce que l'animal racontait sur le changement climatique. Donc ici, l'huîtrier pie qui s'inquiète de l'acidification des océans et donc des conséquences possibles sur les huîtres, enfin les moules qu'il mange, puisque la fabrication de la coquille sera peut-être plus compliquée dans un océan acide. Voilà. Au niveau des cinquièmes, on avait une intervention à l'occasion de la semaine de la fête de la science. On a essayé de choisir des moments précis dans l'année pour présenter ces actions. Donc chaque année, l'association du don du sang de Lusignan nous offre une animation de l'espace Mendès France, donc nous sommes très contents. Et cette année, on leur avait donc demandé de l'axer plutôt sur l'énergie, donc une présentation des différentes sources d'énergie et lesquelles choisir pour éviter la production de gaz à effet de serre, tout cela au moyen de maquettes réalisées par les élèves. Donc, j'ai eu des retours intéressants. Je n'ai pas pu assister moi-même à cette intervention, mais il paraît que c'était bien. Et puis, le niveau le plus touché par notre projet, c'était le niveau des quatrièmes. D'abord, une journée de sensibilisation donc, au changement climatique qui a eu lieu pendant la semaine du développement durable. Cette journée comportait plusieurs aspects. Donc, d'abord, on avait invité l'exposition du Naturalibus sur le changement climatique. Donc, ce sont des expositions itinérantes animées par des intervenants de CPIE. Donc, en l'occurrence, c'était le Seuil du Poitou. Alors, dans l'exposition, il y avait différents panneaux avec différents aspects donc, du problème. Donc, en fait, ici, c'était une présentation de l'effet de serre naturel. Donc, merci l'effet de serre. Sinon, évidemment, à moins 18, on ne pourrait pas vivre sur Terre. Chaque petit groupe d'élèves prenait le temps de bien comprendre un panneau et après, il le présentait au reste des élèves. Donc, d'abord, il s'agissait de comprendre. Alors, il y avait différents thèmes, le thème du GIEC, le thème des conséquences sur la biodiversité, différentes choses. Et la présentation finissait par cette activité qui s'appelle Au bazar climatique, qui finalement permettait de réfléchir aux choix que nous pouvons faire au niveau de la vie de tous les jours. Puisque sur cette balance, on va placer des tomates représentées par des cubes, donc des tomates produites au champ et des tomates produites sous serre. Et on s'aperçoit qu'en poids, alors le poids, ça représente en fait l'équivalent carbone donc de gaz de serre produit par la production de ces tomates, et on s'aperçoit que les tomates des champs, bien sûr, sont beaucoup moins lourdes que les tomates, 1 kg de tomates produites en serre, puisque 200 g d'équivalent carbone contre 2300 g. Même chose pour les pommes produites en Afrique du Sud ou chez nous, donc là on aborde le problème des transports, ou l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, donc le coût finalement des emballages pour l'environnement. Donc, c'est une façon un peu ludique d'inciter à se poser des questions au niveau des élèves. Et ils ont bien participé. Après, dans la journée, ils avaient, on les mettait en contact avec ce qui était fait dans l'environnement du collège pour s'orienter vers les énergies renouvelables. Donc, visite de la chaudière à bois du collège. En fait, ce n'est pas du collège, c'est une chaudière à bois qui produit de l'eau chaude, qui ira donc d'une part vers le collège, mais aussi vers l'école primaire, vers les installations sportives, etc. Et donc là, ils ont suivi tout le parcours de ce chauffage à partir de la chaudière vers le sous-sol du collège. Donc, ils découvraient des entrailles du collège où il y a l'échangeur de chaleur entre l'eau chaude arrivant de la chaudière et le circuit d'eau chaude, donc du chauffage du collège. On a fait une petite activité aussi sur les panneaux solaires qu'on nous a installés sur le toit du collège, donc qui appartiennent au conseil général, pour qu'ils comprennent que cette énergie, enfin comment elle est produite et que le courant continu est transformé en courant alternatif par l'onduleur, et ensuite donc ce courant est envoyé vers le réseau qui ensuite le redistribue de préférence à proximité. Et on a fini ces visites par la visite du parc éolien de Lusignan, puisque nous avons depuis 2 ans un parc éolien à Lusignan. Nous étions accueillis par le responsable de la CERGIS, qui nous a présenté, d'une part, le chantier de l'installation de ces éoliennes, le choix du site par rapport au vent, par rapport au couloir de migration, et surtout qui nous a donné des indications donc, sur la quantité d'énergie produite par ces éoliennes, puisqu'on arrive avec les 3 éoliennes à 12 gigawattheures par an, soit, dit-il, l'équivalent des besoins d'électricité de 6 000 habitants. Donc, comme à Lusignan, on a 3000 habitants, nous, on se dit que peut-être on consomme essentiellement de l'énergie éolienne. Donc, ça nous plaît. Et on économise 3600 tonnes de CO2 qui ne sont pas émises dans l'atmosphère. La visite se finissait avec l'intérieur de l'éolienne. Donc, ça, ils ont trouvé ça passionnant. La journée se finissait ensuite sur des pistes d'action, parce que c'est bien beau de savoir, mais que faire? Donc on avait proposé de faire une sorte d'exposition ouverte d'abord aux élèves, mais aussi aux adultes du collège, et même on avait invité les parents à venir visiter cette exposition. Alors, il y avait l'atelier du soleil et du vent, qui est une association qui s'occupe d'organiser des réflexions et des formations sur les énergies renouvelables et qui peut accompagner pour des réalisations. Donc, ça peut être fabriquer une petite éolienne individuelle ou fabriquer un chauffe-eau solaire, ou ici, nous avait apporté donc, le séchoir solaire qui permet de sécher ses tomates, ses pommes, etc. Donc, on trouvait ça très intéressant. La sève, qui, alors j'oublie toujours, c'est l'Association pour la cohérence environnementale dans la Vienne. Ils sont venus présenter donc, l'intérêt des différents matériaux d'isolation, donc comparer les différents matériaux d'isolation avec leurs avantages, leurs inconvénients, donc l'éco-habitat. Nous avons aussi donné la parole au président de notre AMAP local, le Fil Vert, puisque le président est aussi surveillant au collège. Et ça permettait d'aborder le problème de dire que si on achète des productions locales, eh bien on économise aussi des gaz à effet de serre. Et puis, en plus, on a des produits de qualité, puisque c'est souvent des produits de culture biologique ou raisonnée. Et enfin, une exposition donc, mise à disposition par l'ADEME et animée par un chargé de mission de Vienne Habitat sur l'énergie au niveau de l'habitation et aussi ce panneau en particulier sur les gestes économes au quotidien, donc les types d'ampoules à utiliser, débrancher ses appareils, enfin tous ces petits gestes qui... Bon, c'est des petites gouttes, mais ça peut contribuer, puisqu'on est quand même très nombreux sur Terre, à diminuer peut-être la consommation d'énergie. Donc ça, c'était la journée de sensibilisation. Et au niveau des quatrièmes, oui, c'est ça ? D'accord. On avait aussi un IDD éco-collège. Alors, très rapidement, l'objectif, c'était de... ils ont préparé la journée de sensibilisation, mais aussi, on a créé toute une signalétique qu'on a installé au collège donc, pour économiser l'électricité, éteindre. Donc, c'est les élèves qui ont créé ces petits logos et fabriqué les affichettes. Donc éteindre, ne pas laisser en veille, recyclage égale sauvetage. Donc ça, on a un peu élargi au papier, à l'eau, voilà, on en a fait de tout. Et on a fini donc ce projet, enfin pas tout à fait fini encore, mais pour les troisièmes, on a profité des portes ouvertes de l'INRA pendant la semaine de la séance pour leur faire donc rencontrer les scientifiques qui ont parlé des travaux qu'ils réalisent sur l'anticipation donc des conséquences sur les prairies du réchauffement climatique, puisque c'est une de leurs thématiques de travail. Donc ils ont montré comment ils créent des stress hydriques, chauffer la terre pour étudier la réaction des graminées, et aussi comment, en associant des légumineuses et des graminées, on peut diminuer les intrants dans les prairies et contribuer aussi diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Enfin, c'est très intéressant. Et un autre projet qui a donc réuni tous les élèves du collège, c'était le projet de la comédie musicale sur le thème de La Belle Verte, qui est un film de Colin Serrault, et où les élèves ont réfléchi aussi sur la planète, puisque dans ce film, c'est des habitants d'une planète idéale, la planète verte, qui viennent en visite sur notre planète arriérée, la Terre, où rien ne va. Et bon, entre autres, ils ont réfléchi sur le réchauffement climatique. Donc il y avait du chant, il y avait du théâtre, le scénario, c'est les élèves qui l'avaient écrit, des percussions et la danse, et puis des sons et lumières par les professionnels et tout ça. Ça a donné notre comédie musicale pour couronner cette année sur le thème du réchauffement climatique. Voilà.
Ben merci beaucoup. Vous pourriez organiser un voyage pour nous vers la planète verte, non ? Pour voir la planète idéale. Voilà. Eh bien, c'est pas grave. Je pense qu'on va gérer tout ça. Voilà, très bien. On ne va pas pouvoir passer aux questions ou autres interventions parce qu'il faut vraiment qu'on termine notre programme avec... Jean-François Sabouret, s'il veut bien me rejoindre ici. Alors, Jean-François Sabouret, écrivain, essayiste, chroniqueur média, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, président du réseau Asie, et qui est auteur aussi de l'ouvrage Japon, la fabrique des futurs, et qui va nous entretenir. Alors, en introduction, j'ai parlé de diplomatie climatique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, il va recaler tout ça. On a évoqué tout à l'heure le Japon qui pourrait nous aider la région Poitou-Charentes à recycler son CO2. Donc une piste peut-être intéressante. Jean-François, ben vous avez une grosse demi-heure hein, pour nous présenter tout cela.
Parce que Didier Moron m'avait dit, il m'a dit, tu parles un quart d'heure, tu laisses la place aux questions. Tu vois,
ah. Bon, alors je revois mes ambitions, je vous donne 20 minutes et vous aurez 10 minutes de questions.
Lorsque Didier Moron m'a lancé sur le problème des énergies renouvelables au Japon, j'avais...
Tout le monde entend ou il faut le micro ?
Il faut le micro.
Maintenant, il faut le micro de toute façon. Oui, ce que je dois manœuvrer, cette chose-là.
Il y a l'enregistrement. Ah, on t'enregistre.
Est-ce que j'ai besoin de manœuvrer mes...
Alors, on peut mettre un...
Vous avez un pied. Là, il y a un pied.
Ici, là, voilà.
Oh, formidable. Excusez-moi. Ah, c'est bon comme ça, là ? Bien. Oui, lorsque Didier Moron m'a demandé de réfléchir sur les énergies renouvelables au Japon, j'avoue que je pensais, a priori positif, que les Japonais étaient en technologie de l'environnement renouvelable, étaient bien devant les Français. Et puis, je suis tombé dans un maintenant, j'en ai conscience, je suis tombé dans un problème politico-industriel très important que je n'avais pas vraiment soupçonné. C'est-à-dire que les choses commencent avec le bombardement de Hiroshima et de Nagasaki. Les Américains ont nourri une culpabilité très forte vis-à-vis des Japonais. Et ils se sont dit qu'il fallait donner aux Japonais, montrer que le nucléaire, ça pouvait être quelque chose de positif, et donner aux Japonais du nucléaire civil. Donc il y a eu des accords entre le Parti libéral-démocrate conservateur au Japon avec des Japonais, des Américains qui ont construit la première centrale nucléaire qui a démarré au moment de la haute croissance en 1966. Et les Japonais qui n'ont pas de pétrole, plus de charbon, pas de gaz, se sont dit que c'était véritablement l'Eldorado de pouvoir disposer du nucléaire. Donc ils se sont lancés, rués si j'ose dire, sur le nucléaire, puisqu'ils ont, avant Fukushima, au moment de Fukushima, ils avaient 54 réacteurs, ce qui n'est pas rien, et ils voulaient en construire 14 dans les années à venir. Donc pour eux, le nucléaire, c'était la solution. C'est d'autant plus la solution que, à la fois, c'est une énergie bon marché, qui n'est pas polluante, et ce n'est pas pour rien dans le protocole de Kyoto, signé en 1997 et donc lancé en 2005, pour dire, regardez, nous, l'effet de serre, on diminue, etc. Donc tout cela, ce beau montage tombe en quelque sorte, et donc il faut repenser la planète énergie et énergie renouvelable au Japon. Donc je pensais que les Japonais étaient loin devant les Français, et donc ce n'est pas le cas. Simplement, le bouquet énergétique japonais, très rapidement, ils ont, les Japonais ont 1,7% gaz naturel, 1,7%, 42,5% pour le pétrole, le charbon 18%, et l'énergie renouvelable, c'est 10%. Mais si on enlève l'énergie hydraulique, il ne reste plus que 1,6%. Alors, les Japonais, peut-être moi, mais surtout les Japonais sont fâchés avec les chiffres, puisque ça oscille entre 3 et 1,6. Donc, on prend, en tout cas, c'est quelque chose de très faible. En France, nous aurions 14,6% d'énergie renouvelable, dont 10,2% d'énergie hydraulique. Donc, on a 4,5%. Les plus importants, ce sont les Allemands, qui, eux, ont 18,9% d'énergie renouvelable, c'est quand même pas mal. L'Espagne, puisqu'ils ont du soleil, 22,5%. Le Royaume-Uni, mais avec l'énergie éolienne, 10,10%. Et les États-Unis, qui sont à 12,1%. Voilà. Donc, le Japon n'est pas le premier pays de la planète, mais là, ils vont retrousser les manches, si j'ose dire, pour s'y mettre. Donc, le Japon est le troisième économie du monde. Elle était la deuxième il y a encore 3 ans ou 4 ans. La deuxième économie du monde, et ce qui est très important, c'est la deuxième économie du monde qui n'a rien. Ils ont des séismes, des tsunamis, on le sait maintenant. Ils ont de la neige, du vent. Et avec tout ça, ça fait pas beaucoup de ressources. Donc, ils ont développé avec les Américains l'énergie nucléaire. Le Parti libéral-démocrate, qui est lié, très lié aux Américains, donc le soi-disant parti de gauche qui était au pouvoir pendant 3 ans, n'avait pas bien compris cela. Et donc, c'est un ménage à trois entre le Parti libéral-démocrate, entre le Keidanren, le patronat, et les Américains. Donc, le Parti démocrate, soi-disant de gauche, était aussi pro-nucléaire jusqu'au moment de Fukushima. Il y a eu des mouvements de population, notamment Sayonara Genpatsu, c'est-à-dire au revoir, bye bye le nucléaire. Et il y a eu des mouvements de foule très importants où ils se réunissaient tous les vendredis pour entourer la résidence du Premier ministre en disant il faut arrêter le nucléaire, c'est dangereux. Je rappelle qu'environ 19 000 personnes ont disparu. Et donc les Japonais ne voulaient plus de nucléaire. Donc, vers la fin de son mandat, le parti Minshuto, qui a été battu complètement défait en décembre 2012, vers la fin de son mandat, le parti libéral-démocrate, le parti de Minshuto, démocrate, pardon, a changé totalement sa politique en disant, comme les Allemands, nous allons quitter le nucléaire. En 2030, il n'y a plus de nucléaire au Japon. Fort heureusement ou malheureusement, ils ont perdu les élections. Et est revenu au pouvoir M. Abe Shinzo, qui était en France la semaine dernière avec François Hollande. Ils sont venus au pouvoir et ils ont commencé par dire que oui, bien évidemment, il fallait développer les énergies renouvelables, mais quand même réfléchir à deux fois avant de supprimer le nucléaire. Je signale qu'au moment où nous parlons, il n'y a aucune centrale nucléaire qui marche au Japon. Sur 48 réacteurs qui sont là, qui sont prêts à fonctionner. Donc, et les Japonais, contre l'énergie nucléaire, comme Kamata Satoshi ou le prix Nobel ou Ekenzaburo, disent, mais est-ce que le Japon marche ou non? Est-ce qu'il y a l'électricité au Japon? Oui ou non. Il y en a. Et donc, le Parti libéral-démocrate, puis tous les gens que j'ai vus, parce que je suis au Japon il y a 3 semaines, disent, mais oui, ça marche, mais à quel prix? Puisque les Japonais, les ménages maintenant, ont payé pour l'année 2013 20 ou 30 000 yens, c'est-à-dire plus de 250 euros en plus, par tête d'électricité. Les produits made in Japan coûtent 17 à 18% de plus. Donc, si vous voulez que l'économie se casse la figure, on peut continuer à importer du gaz, du charbon, du pétrole, et on sera plus compétitif. Déjà qu'on n'est pas compétitif par rapport aux Chinois, qui, eux, ont une main-d'œuvre bien moins chère, donc c'est la meilleure solution. Donc les Japonais, ils sont dans cette position, cette contradiction, en disant on ne veut plus de nucléaire, mais on veut surtout du boulot. Donc là, cette année, il y a des enquêtes qui sont faites dans le Yomiuri Shimbun, conservateur, ou le Asahi Shimbun, plutôt rénovateur, mais ces enquêtes disent, nous ne voulons plus de nucléaire, environ 60%, donc on peut penser que M. Abe Shinzo, qui est pour le nucléaire maintenant, qui le dit franchement, il a fait le tour des popotes, pardonnez-moi l'expression, le tour des popotes de l'Europe, de l'Union européenne, dont M. Hollande, Cameron, etc., pour parler, bien évidemment, de la défense collective du Japon en cas d'attaque des îles Senkaku, mais en même temps pour parler de nucléaire. Et connaissant les Japonais, M. Abe Shinzo, le nucléaire, ce n'est pas que le nucléaire civil. Voilà. Donc c'est la pièce à côté, si j'ose dire. Donc tout cela, ça fait sens. Et alors on se dit, mais alors, moi, au fur et à mesure que je travaillais pour vous parler aujourd'hui, je dis, bon, alors finalement, je ne vais pas leur parler de nucléaire, d'énergie renouvelable, je vais leur parler du nucléaire, puisque le nucléaire, ils ont des projets. Et il y a ce côté du judoka japonais, en quelque sorte. Judo, c'est utiliser la faiblesse pour la retourner en force. C'est de dire, ben écoutez, nous, le nucléaire, on sait ce qu'il en est. Nous allons faire des centrales nucléaires capables de résister à des séismes de force 10. Et ça n'existe pas, paraît-il. Donc, c'est un slogan. On a déjà 8, 5 ou 9, paraît-il, il y en a. Le séisme que les Japonais ont subi dans le Tohoku, à Fukushima, c'était quelque chose de l'ordre de 8-5 et le quatrième, je crois, de l'histoire des séismes. Cela dit, on sait maintenant que les Japonais sont tellement confiants en toute chose, y compris dans le nucléaire, que la maintenance n'a pas été bien assurée. Ils étaient, en plus, jugés partis. Donc, on se dit, oh, bon, il ne va rien se passer. Il s'est passé quelque chose. Si la maintenance avait été assurée davantage, il n'y aurait pas eu ce nombre de morts qui a été, pour autant que j'en sache, un ami m'a écrit avant-hier, je ne suis pas d'accord véritablement avec lui, mais c'était dû au séisme plus le tsunami. Les Japonais font très attention entre les deux, puisque quand votre maison est détruite par un séisme, les assurances doivent payer. Quand elle est détruite par un tsunami, ça, c'est force majeure, on ne paye pas. Alors, vous voyez à peu près comment quel est le tir à la corde et qui se passe en ce moment. Donc, les Japonais, maintenant, peu à peu, on voit l'opinion qui régresse, il y a des enquêtes régulièrement. Bon, ben, écoutez, oui, d'accord, le nucléaire, mais il faut faire très attention. Bien évidemment, on va faire très, très attention. Mais on ne peut pas se passer du nucléaire. Et les Japonais disent, on est obligé d'acheter du gaz aux Russes. Et les Russes, ce n'est pas tellement des amis. Ils nous ont pris les îles Kouriles, c'est l'Alsace et la Lorraine. Des Japonais, ils ont pris les îles Kouriles. On ne peut pas à la fois demander aux Russes de nous redonner les îles Kouriles et puis en disant, vendez-nous pas cher du gaz. Ce n'est pas possible, ça. Et donc, ils achètent en masse du charbon aux Australiens. Ils achètent du pétrole, bien sûr, aux pays du Moyen-Orient. Et donc, tout cela, néanmoins, ça fait un coût énorme de plus en plus, qui se développe de plus en plus. Alors, les Japonais ont développé, première chose depuis 2011, en disant, écoutez, faut dire la vérité, nous sommes des accros. Les Japonais sont des accros, pour ceux qui sont allés au Japon, à l'électricité. À la limite, on a intérêt à mettre des lunettes de soleil la nuit quand on va se balader, parce qu'il y a des quartiers comme Kabukicho, on se dit, mais c'est pas possible, mais comment ils peuvent faire ça? Donc, ils se shootent à l'électricité. Donc, ils ont lancé un mouvement consommant moins d'électricité. Dans les ministères, on vient sans cravate et on ne met l'air conditionné qu'à partir de 27 degrés. Et je peux vous dire qu'avec la chaleur humide de Tokyo, toutes les villes côtières, puisque c'est un pays où les collègues japonais que je connais, ils tapotent en disant mais il y a 25,5 ou il y a 26, et voilà, 27 degrés. Et donc, ils ont fait quand même baisser la facture énormément de 20 ou 25%. Donc, c'est possible. Donc, ils veulent continuer de ce côté-là, c'est-à-dire par une politique, un esprit civique en matière d'environnement durable. Donc, ça c'est pas rien. Et puis, ils veulent lancer maintenant les énergies renouvelables. Mais quand on regarde ce qui m'a été mon grand étonnement, quand on regarde ce qu'ils font, c'est pas l'Arlésienne, mais c'est pas loin. Cela dit, je me garderai bien d'affirmer que les Japonais n'y allaient pas, ils ne font rien, c'est pas vrai. C'est maintenant qu'ils démarrent, c'est maintenant qu'ils mettent de l'argent, et c'est maintenant, si j'ose dire, qu'il faut aller les voir. Parce que là, il y a des choses qui se font. Et à la manière japonaise, on en parlait ce matin, à la manière japonaise, on n'est pas à réfléchir, nous un peu les Français, dans le ciel des idées, qu'est-ce que c'est que l'énergie, la pierre philosophale de l'énergie renouvelable a inventé quelque chose. Les Japonais, c'est une société immanentale, horizontale. Bon alors, quels sont les meilleurs dans le secteur, dans le monde ? Alors on lance des gens dans le monde entier pour aller chercher de l'information. Ensuite, on va faire une sorte de Davos des énergies renouvelables. Parce qu'on fait venir les gens, ça ne coûte rien de faire venir les gens. On fait venir les cadors qui sont très heureux de venir pour parler. On fait en même temps un salon pour dire aux gens, présentez vos produits. Et donc, à partir de là, la machine se met en marche. Derrière, il y a la machine de guerre qui s'appelle le MITI. Et je peux vous dire que ça marche très bien, qui d'ailleurs plus ou moins en délicatesse avec le ministère de l'Environnement, bon, enfin ça c'est pas nouveau, mais tous les deux néanmoins ont des budgets très conséquents et ont obtenu vraiment des budgets supplémentaires pour développer les énergies renouvelables. Donc ce que veut développer par exemple, je prends des exemples un peu dans le désordre, mais vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez. Des gens comme Kobayashi Hikaru, qui était vice-ministre du ministère de l'Environnement, qui est maintenant professeur à l'université de Keio, qui est la première université privée, lui, il fait une sorte de croisade pour les énergies renouvelables et il dit qu'il faut changer totalement notre mode de vie. Vous savez que les Japonais, à cause des séismes, tous les 30 ans, reconstruisent leur maison. Parce que il y a tellement de séismes chaque jour qu'au bout de 30 ans, la maison, comme on dit en japonais, elle est boroboro. Donc c'est vraiment, on a intérêt à la reconstruire. Mais il dit, c'est pas une fatalité. Il faut construire des maisons capables de durer, de l'écohabitat, capables de durer 100 ans. Ça coûte un peu plus cher si on fait vraiment des maisons respectueuses de l'environnement, qui dépensent moins d'énergie. On met des cellules photovoltaïques, etc. On fait ça, ça coûte plus cher. Mais si les maisons tiennent le coup pendant 100 ans, on peut répartir le coût sur 3 générations. Voilà, c'est donc voilà le combat de ce monsieur-là. Et il a sa propre maison, on peut la voir sur les sites, etc. Naturellement, elle est formidable. Les Japonais disent, oui, mais enfin, moi, je n'ai pas les moyens de faire ça. En attendant, moi, j'ai 65 ans, parce que généralement, on achète une maison vers 40 ans, à peu près. Et puis, pour ça qu'ils préfèrent voyager une heure et demie de transport, parce que s'il y a un séisme, la maison tombe par terre, mais le terrain, il reste. Donc, vous savez qu'au Japon, c'est comme les voitures. À partir du moment où vous achetez un appartement à Tokyo, dès le lendemain, il vaut moins cher que la veille. Puisqu'on sait que vous pouvez avoir un appartement au centre de Tokyo qui vaut moins cher qu'un deux pièces tout neuf, parce qu'on sait qu'ils vont être détruits dans 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc, c'est quand même une psychologie tout à fait différente. Donc, les Japonais qui ont promis de réduire les gaz à effet de serre, bien, ils disent, excusez-nous, mais ce n'est pas possible. Ils ont rabattu un peu de leur superbe, parce qu'ils disaient que Tchernobyl, ça ne les concernait pas, que ça, c'était dû à Tchernobyl, à la déliquescence d'un système politique obsolète. Mais là, maintenant, est-ce que les conservateurs, c'est obsolète ? Ils sont venus au pouvoir. Ce qui fait que les conservateurs sont venus au pouvoir, c'est parce que les soi-disant parti de gauche ont voulu faire partir les Américains. Ce n'était pas, le bon choix. Ils n'avaient pas compris exactement la place des Américains qu'il y avait dans ce pays. Et ils ont annoncé ce que tout homme politique rêve au Japon, dire aux Américains merci, au revoir. Mais ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et une des questions posées par un ancien Premier ministre, Nakasone Yasushiro, c'est « Mais dites-moi, vous avez fait la guerre, vous, en France et puis en Europe. Quand on a perdu la guerre, on l'a perdu pour combien de temps ?» Et donc les Japonais, ils ne peuvent pas supporter les Américains, mais là, ils sont bien obligés de les supporter, puisqu'il y a des conflits graves. Et moi, je prends la chose très sérieusement à propos des îles Senkaku entre Chine et Japon, en disant... Les Chinois disent « ces îles sont à nous, si vous regardez la mer, etc., ça c'est à nous ». Et les Japonais disent « mais d'où vous sortez cela ?» Naturellement, ils veulent ça. Il y a un bras de fer actuel qui se joue grave entre la Chine et les États-Unis. C'était une Mare Nostrum américaine. Maintenant, les Chinois disent « attendez, excusez-nous, on a des milliers de kilomètres carrés beaucoup plus longs que vous sur le Pacifique. Il faudra partager la mer ». Donc, par Japonais interposé... On prend prétexte des îles Senkaku, où ça peut mener, je ne sais pas. Mais c'est une chose grave. Et le pétrole, le charbon, tout ça, ça joue un rôle très important dans ces choses-là. Donc c'est tout se tient. Hein. Je pense que vous êtes tout à fait convaincu de cette chose-là. Et puis il y a des gens, j'étais étonné de voir qu'il y a des gens qui défendent l'énergie nucléaire, comme le Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'est quand même, en Asie, c'est quand même quelqu'un d'important, qui dit que c'est une énergie bon marché importante pour les pays émergents. Donc, il vient au secours de M. Abe Shinzo. Et donc, je crois peu à peu que les gens qui font le bras de fer avec le Parti libéral démocrate vont devoir lâcher. Et il a dit que cet été, il va relancer un ou deux réacteurs. Et puis après, la machine nucléaire va se mettre en place. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Maintenant, qui travaille sur les énergies renouvelables au Japon? J'ai envie de dire, c'est tout le monde. Vous avez un opérateur sur la téléphonie qui est M. San Masayoshi, qui est une 30e fortune mondiale, qui s'est lancé là-dessus. Vous avez des entreprises de commerce comme Marubeni qui se lancent là-dessus. J'ai l'impression énormément, et dans plusieurs secteurs, des transports maritimes, etc. Quand des entreprises si diverses se mettent ensemble sur un secteur, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Et quand en 1987, le Premier ministre Takeshita Noboru a dit, il a fait rire tout le monde, on a détruit l'archipel, la maladie de Minamata, le camion, il y en avait dans mon quartier, les camions s'arrêtaient à 30 mètres du carrefour, parce que comme c'était un creux, il y a la pollution s'accumulait, enfin on ne savait plus comment s'en sortir. Et il a fait un discours en disant, bien écoutez, à partir de maintenant, nous allons devenir un pays phare en matière d'environnement. Tout le monde arrive, on dit sacré Takeshita, il n'y en a pas d'autre. On va s'acheter une conduite et on va reconquérir notre archipel. Souvenez-vous, l'archipel, alors toute la poésie japonaise, etc. Eh bien, c'est ça notre objectif, faire en sorte que les rivières soient propres. Faire en sorte que les poissons qu'on ne voyait plus reviennent. Il faut nettoyer le Japon. Il faut arrêter de polluer. À commencer par les fumeurs dans les quartiers ou dans les rames de métro qui jettent des cigarettes. Maintenant, on ne fume plus. C'est interdit. On ne fume plus dans la rue. Donc, il y a cette discipline qui est incroyable au Japon qui fait que quand on lance quelque chose, eh bien, ça marche. Il est vrai aussi... qu'il faut dire, puisqu'on a eu deux enseignantes avant que je ne parle, et vous savez que les enfants dans les écoles au Japon font le ménage. C'est-à-dire qu'à 3 heures le soir, ils prennent le balai, il y en a qui, ils appellent ça le toban, par équipe de 8, il y en a qui vont faire les carreaux, qui vont faire les couloirs, qui vont faire les toilettes, qui vont balayer dans la classe, et qui vont tenir le ou alors qui vont arroser les, parce que les enfants, ils ont un petit jardin, ils ont des fleurs, qui vont maintenir l'école et gérer et les maintenus par les enfants. Et moi, naturellement, étant bon français, je dis écoutez, ça c'est un peu de la musique de film, pas du tout. Si un enfant laisse tomber un papier et je ne l'ai pas vu, son copain lui dit c'est moi qui suis de service cette semaine, tu ramasses le papier. Et je peux vous dire que les Japonais, une fois qu'ils sont devenus adultes, c'est une chose normale. On ne prend pas un truc pour le jeter. Ce n'est pas possible. Le métro japonais, vous pourriez manger par terre tellement c'est propre. Il n'y a pas de chewing-gum qui est collé, etc. Ça s'appelle, c'est un sens civique. Et ça, ça commence dès l'école primaire. Voilà, c'est comme ça. Donc, et on ferait des économies si toutefois on faisait le ménage dans les écoles françaises. Je sais que ça fait sourire, mais c'est comme cela. Bon, alors... Le ministère de l'écologie et le ministère du métier veulent véritablement développer les énergies renouvelables pour vendre, pour exporter. Une chose qui est importante, c'est bien joli de parler d'énergie, de faire la philosophie, de parler d'énergie renouvelable, mais ça doit se mesurer concrètement. Quels sont les produits que vous vendez ? Petite anecdote, j'avais fait visiter il y a 25 ans à peu près, 25 ans ou 30 ans, un laboratoire à des ingénieurs français de chez Thomson, pour ne pas les citer, et donc qui faisaient des caméras vraiment très très bien. Et puis il y avait un ingénieur, je ne sais pas pourquoi, il disait avec son copain tout haut, mais et ça on sait faire, non ? Ça, nous, nos caméras sont bien meilleures. Ça, il a oublié que le monsieur japonais qui était là, il parlait aussi français. Et donc, je sentais, je ne sais pas comment me débrouiller, moi j'étais là pour les amener, je sentais que la tension montait. Je me dis, ça va mal se terminer, cette affaire-là. Et à chaque fois, il disait, mais ça, on sait faire, ça, on sait faire. Puis à un moment, le monsieur japonais dit, je ne doute pas que vous sachiez faire, mais nous, là, vous voyez ce que vous savez faire. Nous, on le vend. On le vend. Et on gagne de l'argent avec. Silence. Voilà. Donc, on sait très bien faire des prototypes, des choses comme cela, mais il y a un problème, c'est exporter. Et ça, Abe Shinzo, le Premier ministre, dont on dit que c'est un homme tout à fait banal, etc., il a dit, on va exporter des centrales nucléaires. Si on revoit l'article 9 de la Constitution, on va fabriquer des armes et les exporter. Donc la France qui vend des armes devrait quand même un petit peu réfléchir. Et puis, on va exporter des énergies renouvelables. Ils ont, pour faire oublier le malheur de Fukushima, construit à quelques kilomètres de l'entreprise de la centrale nucléaire, ils ont construit une éolienne énorme. Ils vont construire 3 ou 4 pour le New Fukushima. Voilà. Et donc, c'est un espèce de truc gigantesque. Je pensais qu'ils pouvaient construire des éoliennes facilement. Or, c'est pas possible, puisque les éoliennes, soi-disant flottantes, faut quand même les arrimer quelque part au sol. Et au Japon, c'est un ensemble de volcans qui sont collés les uns aux autres, et tout de suite, on est à pic. Donc les Japonais peuvent pas vraiment trop miser sur l'énergie éolienne en mer, alors que les Anglais peuvent le faire, les Français pas mal, les Américains aussi, et le Danemark bien évidemment, mais les Japonais, mauvaise nouvelle aussi de ce côté-là. Alors, ils ont le photovoltaïque. Ça, c'est une chose qu'ils veulent vraiment développer. Et ils construisent 50% des maisons individuelles qui sont construites sont équipées de photovoltaïque. Et donc, ils veulent développer énormément l'éco-habitat. Et donc, il y a peut-être des entreprises qui pourraient être intéressées, qui ont un savoir-faire ici dans la région, qui pourraient prendre contact, parce que les Japonais sont des gens très accessibles. Et ils sont tout à fait d'accord pour travailler. Mais attention, il faut courir vite. Hein ? C'est quand on fait quelque chose ensemble... Il faut vraiment travailler. Il y a un potentiel géothermique de rang mondial au Japon, forcément, puisque je ne sais combien de volcans en activité ou des volcans en sommeil, comme le fameux Fujiyama, le Fujisan, puisqu'on sait qu'il y a une pression qui monte dans la cheminée et que peut-être le Fujiyama qui est en sommeil depuis 1709, un jour, le bouchon peut sauter et donc il y aura des choses. Mais il y a énormément... Il y a énormément de possibilités. Sauf que là où il y a des possibilités en géothermie, c'est dans les parcs nationaux. Donc, ça, faut changer les lois. Et puis aussi, c'est dans ce qu'on appelle les onsen, les sources chaudes. Et ça, c'est le business de milliers de gens, de dizaines de milliers de gens. Et quand ils disent, on va creuser et faire de la géothermie, les gens disent, attendez, qu'est-ce que on comprend pas bien là. Ça veut dire l'eau que vous allez pomper, nous on en aura encore ? Est-ce que l'eau que vous allez pomper chaude, nous elle va être chaude encore ? Alors ils disent oui, on va pomper l'eau et on va la remettre pour qu'elle s'infiltre dans le magma. Oui. Mais les gens ne sont pas convaincus du tout. C'est au Japon. C'est, vous ne pouvez pas faire autrement. Tout ça pour vous dire que les éoliennes, ce n'est pas, c'est pas évident. La géothermie, ils veulent le lancer. Alors, ils ont eu l'idée, le ministère de l'Environnement, mais écoutez, développons ensemble la géothermie et vous pourrez y gagner de l'argent. Ouais, les gens disent oui, mais enfin, ils ne sont pas véritablement emballés. Et il y a quand même au Japon 3000, j'ai noté cela, plus de 3000 sources thermales chaudes. Donc ça veut dire que ça fait vivre énormément de gens. Et prendre des congés au Japon, moi compris quand j'y vivais et quand j'y retourne, c'est d'aller passer 2 jours dans une source chaude où on ne fait rien du tout, on se trempe dans l'eau chaude et puis on boit du saké. Et c'est très, très bien. Voilà. Donc c'est pas évident pour le Japon de développer les énergies renouvelables. Ils veulent produire ils emploient le mot anglais, devices, des objets qu'ils veulent vendre. Pour eux, la psychologie première, qu'est-ce qu'on fabrique pour exporter ? Et à partir de là, on va développer des énergies renouvelables. Alors que nous, notre projet, j'ai entendu ce matin, il est très, très, très savant, très intelligent, très philosophique, mais les Japonais disent oui, ça, on sait tout cela, mais il faut développer des choses. Ils sont très forts en biomasse. Ça, c'est très bien. Et j'ai un de mes amis, chimiste, pour le monsieur qui est chimiste, qui est français et qui était directeur de recherche au CNRS à Grenoble. Et comme il avait une équipe de 140 personnes qui passait son temps à remplir des papiers et tout ça, il dit « moi, j'en peux plus ». Il n'a pas vu la relève. Il a accepté une invitation pour devenir vice-président d'université au Japon. Et donc, vous êtes tout à fait aimablement invité. J'espère bien en emmener quelques-uns. Ça me fait penser à emmener des élèves là-bas, montrer ce qu'ils font. Emmener des gens au Japon, des industriels, des responsables politiques et puis des élèves. C'est parce que c'est tout commence avec l'école. Enfin, bon, c'est mon truc, si j'ose dire, mais tout commence avec l'école. Et Bernard, pour pas le citer, il me dit, mais venez, moi, je vous montre tout ce qui se fait, etc. Et on irait voir à la fois un secteur où les Japonais sont encore très dominants, c'est celui de la robotique et celui de l'énergie renouvelable qui démarre. Mais je peux vous dire, quand il démarre vite. Voilà. Donc j'ai résumé. Je vous ai pas assommé avec mon discours, mais voilà. Si vous avez des questions à poser et si je peux y répondre, je le ferai bien volontiers.
Merci beaucoup.
Pendant qu'on attend les questions, je fais passer une petite feuille vierge pour que les gens s'inscrivent s'ils veulent visiter, suivre le voyage d'études au Japon.
Absolument.
Hein, d'accord. Non, alors une liste de volontaires.
Je me suis permis d'anticiper. Parce que j'en ai parlé avec Didier Moreau et on le montrait avec le CSTI Pierre Mendès France, c'est d'emmener des élèves, il faut quand même qu'ils soient en terminale ou en première, de les emmener au Japon pour voir le Japon d'aujourd'hui, c'est Tokyo, on n'irait pas à Fukushima. Quoique moi j'y suis allé, c'est pas parce qu'on y reste 2 jours qu'on va... Voilà. Mais enfin, on n'irait pas à Fukushima, qui est à 280 km au nord de Tokyo. Tokyo, le Japon d'aujourd'hui et de demain. Kyoto, le Japon d'hier, et ensuite on pourra aller à Osaka et Okayama, où se trouve mon ami français, pour voir le Japon de la recherche, des énergies renouvelables, etc. Et je me suis débrouillé pour prendre contact avec le ministère de l'Éducation, le Monbucho, pour pouvoir loger gratuitement, pour très peu cher, loger très peu cher, avoir des billets d'avion pas trop chers, mais ce qui serait bien si la région était fortement motivée, qu'elle puisse donner une petite somme d'argent pour que les familles permettent à leurs enfants de voyager pour pas trop cher. Voilà.
Voilà, on a déjà le programme et la logistique.
Absolument.
Parfait. Voilà, est-ce que vous avez des remarques à faire, une question, des réactions ? Oui ? Non, oui ? Alors, attendez, ici, et puis je vous passe la parole après. Un micro ?
Merci. Mohamed Tabni, géographe. S'il marche. Moi, personnellement, ce que je trouve intéressant dans la présentation...
On entend pas.
Si, il marche. Voilà. Donc, par rapport aux expériences et par rapport, je dirais, aux enjeux et donc donc la sensibilisation et la transition énergétique. Il me semble qu'il y a un travail quand même de communication important à faire. Par exemple, dans le cas des écoles, c'est de montrer, est-ce qu'on peut montrer au-delà des exemples, qu'est-ce qu'on fait in situ dans le domaine de la réduction, ou bien qu'est-ce qu'on consomme comme énergie, si c'est une transition, si l'école est concernée par exemple ou l'établissement, qu'est-ce qu'il fait pour réduire et justement avoir cette démarche d'adaptation, de citoyenneté, etc. Pour une collectivité locale, par rapport à la population, c'est aussi cet aspect de communication sur ce qui est fait. Bon, si, quand même, on dit 50 000 ou 500 000 mètres carrés de bâtiments publics à isoler ou à traiter pour réduire la consommation, où est-ce qu'on en est, comment on peut communiquer pour que la population se mobilise et se dise qu'on fait quelque chose, que la ville... et peut-être nous-mêmes demain, moyennant les dispositifs, on s'engage aussi dans cette démarche-là, qui est à la fois de réduction et d'adaptation pour plus tard. Et pour la transition énergétique, là également, bon, la transition, ça va prendre un certain temps. Et donc, à l'échelle nationale ou à l'échelle des collectivités, est-ce qu'elle est quantifiable? Est-ce que c'est 10 ans? Qu'est-ce que cela suppose comme mobilisation de tout l'appareil technico-économique, etc. Et dans le cas, pour revenir pour une dernière question, est-ce que le Japon est un pays exemplaire dans le domaine, par exemple, de s'engager, bon, au-delà de ses difficultés, de ses contraintes. Effectivement, est-ce que la stratégie de se positionner sur de la production d'objets ou de machines industrielles qui feront les économies d'énergie, par exemple les piles combustibles pour les voitures les plus fiables, etc., ou bien des éoliennes troisième ou quatrième génération, ou bien des éléments d'utilisation des courants marins pour l'énergie ou autre chose. Parce que le photovoltaïque, on a l'impression, par exemple, en Europe, elle a mal pris le virage. Et c'est les Chinois qui sont maintenant dominants sur le marché. Oui. Et peut-être aussi, maintenant, les Chinois sont devenus presque à la pointe technologiquement.
Oui. Le grand combat que se mènent les Japonais, les Chinois et les Coréens du Sud... il faut savoir que pour les Chinois comme pour les Coréens du Sud, le modèle, ce n'est pas les États-Unis ou la vieille Europe, c'est les Japonais. Ils viennent en rang serré pour voir ce qu'ils font. Et on les voit avec les appareils photo qui sont là en train de faire photographier. Et les Japonais nous disent, mais ils sont en train de nous piller. Moi, je souris parce que ça me rappelle des choses il y a 40 ans ou 50 ans. C'est-à-dire juste retour des choses. Donc, les Chinois roulent à vive allure. Les Japonais ont pensé à un moment, ils avaient délocalisé en masse en Chine des usines et des produits à faible valeur ajoutée en disant, bon, ça, on va laisser ça aux Chinois. Sauf que les Chinois, ça marche très, très vite. Et donc, ils pensaient prendre de l'avance, je prends l'image d'une voiture. Et là, quand ils regardent dans le rétroviseur, les autres sont juste derrière. Donc là, ils vont essayer, avec ces produits pour les énergies renouvelables, de lancer des produits tout à fait moderne, inventif, que les Chinois ne peuvent pas sortir avec énormément d'électronique embarquée, parce que ça, c'est leur truc. Mais les Chinois ne vont pas se laisser faire non plus. Ils le savent. Donc là, il y a un combat. Et derrière le combat des îles Senkaku et tout ça, il y a plein de combats qui se mènent. Et les Japonais, ils n'ont pas d'autres ressources que d'être très performants. D'où l'importance de développer des technologies duales, à la fois pour le civil et pour le militaire, pour véritablement mettre l'embargo sur certaines recherches, travailler avec ceux qui veulent travailler avec eux, les Américains, mais peut-être aussi des pays français, etc. Là, ça c'est très important. C'est maintenant que les choses démarrent. Rendez-vous déjà dans un an, deux ans, et puis peut-être il y a trois. Cette année, il y a trois manifestations, une qui se tient la semaine prochaine, donc c'est un peu court pour y aller. Il y en a une qui se tient au mois de décembre, vers le 10 décembre, un salon de l'environnement, énergie renouvelable, environnement. Et il y en a un qui se tient fin juillet, début août. Ce n'est pas la meilleure période parce que là, vous allez là-bas et remarquez, pour moi, c'est bien, je ne perdrai 10 kilos en deux jours, ça ne serait pas un mal. Mais il y a l'occasion d'aller là-bas pour voir les entrepreneurs, voir ce qu'ils fabriquent, voir l'éco-habitat. Ça, c'est très important, puisque c'est là-dessus qu'ils veulent faire peser. Donc, il y a l'éducation à l'école. Ça, c'est très important. Vous savez qu'à l'école, toutes les semaines, dans l'école primaire, on ne jette pas les papiers. On les met dans une grande... Alors les enfants, ben là, ils sont... il y a les responsables des papiers, ils mettent ça dans un grand carton, puis ensuite on attache les cartons. Donc bon, ça rapporte. Mais c'est une discipline. Et à la fin du mois, ils ont 3-4 cartons. Et donc, quelqu'un vient chercher les cartons pour recycler, montrer qu'il faut recycler. C'est très important. Ils disent, on a énormément de voitures, il faut recycler les objets, etc. Bon, la France aussi le fait, hein, énormément. Mais ça, ils veulent développer cette chose-là. Alors qu'il n'y a pas si longtemps encore, je voyais au large de Hokkaido où j'ai vécu, il y avait des bateaux qui venaient entiers, qui venaient chercher des voitures sans ménagement, mais pour les Russes, ça allait. Et ils débarquaient ça à Vladivostok, et donc les types pouvaient se tuer pour pas cher sur les routes verglacées de la Sibérie. Et là maintenant, on fait très attention, on démonte, on recycle, et ça c'est un secteur très très important et très porteur. Patrick.
Oui, pour répondre à la question, la France est un pays de normes, on aime beaucoup les normes, et parmi ces normes, il y a l'affichage des consommations des bâtiments publics. Et comme tout le monde ne l'a pas fait, les normes viennent de changer pour réafficher. Donc on est, si je compare par rapport au Japon, j'ai l'impression un pays où on aime bien mettre des normes pour dire ce qu'on devrait faire, alors que le Japon a l'air d'être un pays où on fait les choses.
On fait les choses, oui.
Et après,
quand on dit qu'on fait des... Ouais, c'est ça.
Donc effectivement, là, on va s'engager dans faire les choses, puisque vous parliez des écoles, dans cet objectif-là, sur une rénovation lourde des bâtiments scolaires, enfin, d'une partie, parce qu'il y en a beaucoup. Et effectivement, on ne pourra passer que par les utilisateurs, puisque plus les bâtiments sont techniques, plus l'utilisateur et le mode d'utilisation du bâtiment est important. Donc, effectivement, si on oublie cet aspect information, formation, on passera aussi à côté de deux choses, de l'efficacité, tout simplement, déjà, parce qu'un bâtiment technique à énergie passive, mal utilisé, c'est une pompe à énergie, en fait. Hein, ça, on en a des exemples dans les bâtiments sociaux que fait CIPEA, par exemple. Selon les utilisations, les mêmes bâtiments sont soit à énergie effectivement quasiment nulle, soit avec un bilan énergétique catastrophique, parce qu'il n'y a pas les clés d'utilisation. Donc il y a cet aspect clé d'utilisation, il sera essentiel. Il y aura aussi cet aspect formation et information des parents, formation des élèves. Ceci dit, il faut faire attention, on se doit à la fois d'être exemplaire et pas donneur de leçons. C'est toute la... il faut faire comme ça... je m'en méfie aussi, vous gaspillez l'énergie, quand on a des gens en précarité énergétique, c'est un discours qui peut aussi être contre-productif. Donc c'est effectivement dans nos idées de travailler dans ce sens-là.
Voilà, merci beaucoup pour cette intervention, on est obligé de conclure. Jean-François, merci beaucoup pour ce témoignage, ces informations fort utiles qui mettent bien en perspective aussi des priorités au Japon, mais aussi des priorités qu'on porte ici, peut-être avec des approches effectivement différentes. Et je crois que ça peut être intéressant de continuer à s'enrichir des expériences mutuelles. Bon, on a des pistes de travail. Bon, d'abord, le voyage d'études, n'est-ce pas? Ensuite, un programme fort chargé pour nos jeunes dans les écoles. Hein. Ça va du jardin jusqu'au ménage. Hein. Voilà. Didier, un petit mot de conclusion.
C'est pas pour conclure. Merci à toutes et à tous d'être intervenus ainsi. Comme vous l'avez compris, c'est une forme de lancement. Le contenu des interventions sera disponible en ligne sur le site de l'Espace Mendès France. C'est une chose. Le contenu des interventions de ce matin vont sûrement nous inspirer pour la prochaine exposition que nous inaugurerons ici le 30 septembre prochain et dont le thème changement climatique est un prétexte pour nous pour aller vers d'autres sujets, en particulier les questions d'adaptation. Et je rappelle aussi que le forum citoyen que nous menons depuis déjà 4 ans à Poitiers aura lieu du 25 au 30 novembre prochain avec cette thématique de l'adaptation. Et on compte beaucoup sur de nouveaux intervenants, mais également sur des interventions de nos concitoyens pour faire avancer le débat et entrer dans le concret. Dernier point, on espère avec le monde éducatif, mais c'est déjà commencé, pouvoir aller un petit peu plus loin sur un certain nombre de propositions de partenariats. voilà. Donc merci à toutes et à tous. Donc rendez-vous prochainement pour les rendez-vous de l'Espace Mendès France autour du climat. Merci.